Chapitre 14. C'est un destin rare et béni, refusé souvent aux plus grands hommes eux-mêmes, de se savoir innocent devant une foule qui les condamne, d'avoir la conscience que ce dont on les accuse est justement ce qu'il y a en eux de meilleur. Le sort vraiment digne de compassion est celui de l'homme que rien n'autorise à se croire un martyr. Arriva-t-il à se persuader que ces bourreaux ne sont eux-mêmes que l'incarnation des mauvaises passions? De l'homme qui sait qu'il est lapidé, non pour avoir pratiqué le bien, mais parce qu'il n'est pas l'homme qu'il faisait profession d'être. Tel était le sentiment qui consumait Bulstrode, tandis qu'il se préparait à quitter Middlemarch pour aller achever sa lamentable existence à l'abri de ce triste refuge, l'indifférence de nouveaux visages. La constance soumise, miséricordieuse de sa femme, l'avait délivré d'une terreur, mais elle ne pouvait empêcher que sa présence fût encore un tribunal duquel il souhaitait ardemment l'absolution, tout en reculant à la pensée de se confesser. Ses équivoques avec lui-même, au moment de la mort de Raffles, l'avaient soutenu dans l'idée d'une toute-puissance à laquelle il adressait ses prières. Et cependant, il était sous l'empire d'une terreur qui ne lui permettait pas de les exposer au jugement de sa femme par une entière confession. Les actes qu'il avait lavés et effacés par des arguments et des raisons intérieures, et pour lesquels il semblait comparativement plus facile d'obtenir un pardon invisible, de quel nom les appellerait-elle? Que dans le silence de son âme, elle pût toujours appeler ses actes du nom de meurtre, c'était ce qu'il ne pouvait supporter. Il se sentait abrité par le doute de sa femme. Il puisait la force de la regarder en face, dans le sentiment qu'elle ne pouvait pas encore se croire autorisée à prononcer contre lui le dernier mot de la condamnation. Quelques jours peut-être, à l'heure de sa mort, il lui dirait tout. Dans l'ombre profonde de cet instant, elle tiendrait sa main dans les ténèbres croissantes, alors qu'elle pourrait l'entendre sans reculer devant cet attouchement. Peut-être, mais la concentration en lui-même avait été l'habitude de toute sa vie, et la tentation de tout avouer demeurait sans force contre la terreur d'une humiliation plus profonde. Il était plein d'humbles attentions pour sa femme, non seulement pour essayer de détourner ainsi toute rigueur de jugement de sa part, mais aussi parce que la vue de sa souffrance l'affligeait profondément. Elle avait placé ses filles dans une pension près de la côte, afin que cette crise pût autant que possible leur rester cachée. Délivrée par leur absence de la nécessité intolérable d'expliquer les raisons de son chagrin ou d'assister à leur anxieux étonnement, elle pouvait vivre sans contrainte avec la douleur qui de jour en jour blanchissait ses cheveux et alourdissait ses paupières. « Faites-moi connaître quelque chose que vous souhaitiez, Henriette, lui avait dit Bulstrode. Je veux parler des arrangements de fortune. Mon intention est de ne pas vendre la terre dont je suis propriétaire près d'ici, mais de vous la laisser comme une réserve sûre. Si vous avez quelque désir particulier à ce sujet, ne me le cachez pas. » Quelques jours après, en revenant d'une visite chez son frère, elle entretint son mari d'une idée qui l'occupait depuis quelque temps. « J'aimerais à faire quelque chose pour la famille de mon frère, Nicolas, et je pense que nous sommes tenus à quelque dédommagement envers Rosemonde et son mari. » Walter dit que M. Lydgate est forcé de quitter la ville où sa clientèle ne lui rapporte presque rien. Et il leur reste bien peu de choses pour se fixer ailleurs. Je serais heureuse, en nous retranchant à nous-mêmes, d'offrir quelques dédommagements à la famille de mon pauvre frère. Mrs. Bulstrode ne se souciait pas d'en dire plus que ces mots, offrir quelques dédommagements. Son mari devait la comprendre. Mais il avait, pour ne pas accueillir cette ouverture, une raison particulière qu'elle ignorait. Il hésita avant de répondre. « Il n'est pas possible de vous satisfaire de la manière dont vous le désirez, ma chère. M. Lydgate a formellement décliné tout service que je pourrais lui rendre à l'avenir. Il m'a renvoyé les 1000 livres que je lui avais prêtées. Mrs. Casaubon lui a avancé la somme nécessaire. Voici sa lettre. » La lettre parut faire une pénible impression à Mrs. Bulstrode. La mention du prêt de Mrs. Casaubon semblait refléter ce sentiment public qui établissait comme un fait tout naturel que chacun éviterait désormais d'avoir des rapports avec son mari. Elle resta quelque temps silencieuse, et ses larmes tombèrent l'une après l'autre, son menton tremblant à mesure qu'elle les essuyait. Bulstrode, assis en face d'elle, souffrait à la vue de ce visage flétri par la douleur, et que 2 mois auparavant il avait vu si florissant. Elle avait vieilli à demeurer dans la triste compagnie de ses traits dévastés. Poussé à faire quelque chose pour la consoler, il reprit « Il y a un autre moyen, Henriette, de venir en aide à la famille de votre frère, si vous voulez vous en charger, et ce serait, je crois, avantageux pour vous. Ce serait un moyen profitable d'administrer la terre dont je veux faire votre propriété. » Elle devint attentive. Garth avait pensé un jour à se charger de l'exploitation de Stone Court, afin d'y placer votre neveu Fred. Le matériel devait rester tel quel, et au lieu d'un loyer ordinaire, ils auraient payé tant sur les profits. Ce serait là un commencement désirable pour ce jeune homme, ajouté à l'emploi qu'il a déjà sous les ordres de Garth. Serait-ce une satisfaction pour vous ? Oui, c'en serait une, dit Mrs. Bulstrode, avec quelques retours d'énergie. Mon pauvre frère est si abattu, j'essaierai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui faire un peu de bien avant de m'en aller. Nous avons toujours été frères et sœurs. Monsieur Bulstrode, désireux de voir aboutir cette combinaison pour d'autres raisons encore que pour consoler sa femme, fit effort pour ajouter « Il faudra faire vous-même la proposition à Garth, Henriette. Il faudra lui expliquer que le domaine est bien votre propriété et qu'il ne sera tenu à aucun rapport avec moi. Les communications pourront se faire par l'entremise de Standish. Je dis cela parce que Garth a renoncé à être mon agent. Je puis remettre entre vos mains un papier qu'il avait rédigé lui-même, établissant les conditions, et vous pourrez lui proposer les mêmes. Je ne crois pas impossible qu'il accepte, si vous proposez la chose par intérêt pour votre neveu. » Chapitre 15. Mrs. Garth, entendant son mari entrer dans le corridor vers l'heure du thé, ouvrit la porte du parloir et lui dit « Vous voilà, Caleb. Avez-vous eu votre dîner ?» Les repas de M. Garth étaient toujours subordonnés aux affaires. « Oh oui, un bon dîner, du mouton froid et je ne sais quoi encore. Où est Mary ?»«
Dans le jardin avec Letty, je crois. »
« Fred n'est pas encore venu ?»«
Non. »
« Allez-vous ressortir sans prendre de thé, Caleb ?» dit Mrs. Garth, voyant que son mari, dans sa distraction, remettait son chapeau.
« Non, non, je vais seulement voir un instant Mary. »
Mary était dans un coin herbeux du jardin, où se trouvait une balançoire suspendue entre 2 poiriers. Elle avait noué sur sa tête un fichu rose, dont la pointe abritait ses yeux des rayons du soleil déclinant, et elle imprimait de vigoureux élan à Letty, qui riait et criait de toute sa force. En voyant son père, Mary quitta la balançoire et alla à sa rencontre, rejetant en arrière son fichu rose et lui souriant de loin avec le bon sourire de la tendresse heureuse. « Je suis venu vous trouver, Mary, » dit M. Garth. « Faisons quelques pas ensemble. » Mary vit tout de suite que son père avait quelque chose de particulier à lui dire. Ses sourcils formaient cet angle profond qu'elle connaissait bien, et il y avait une tendre gravité dans sa voix. Elle n'avait pas l'âge de Letty que déjà elle avait observé la signification de ses indices. Elle passa le bras de son père dans le sien, et ils tournèrent par l'allée des noyers. Il va s'écouler un assez triste temps avant l'époque probable de votre mariage, Mary, commença son père, sans la regarder, les yeux sur le bout de sa canne.
Pourquoi triste, père ? J'ai l'intention d'être gai, dit Mary en riant. « J'ai été fille et gaie pendant 24 ans et plus. Je suppose que cela ne sera pas tout à fait aussi long maintenant. » Puis, après une courte pause, elle ajouta gravement, et en rapprochant sa tête de celle de son père, « Si vous êtes content de Fred. » Caleb releva un peu les coins de sa bouche et détourna prudemment la tête. « Voyons, père, vous avez fait son éloge l'autre jour. » Vous avez dit qu'il avait des connaissances remarquables en agriculture et de bons yeux pour tout voir. « L'ai-je dit ? » demanda Caleb un peu timidement. Oui, j'ai noté tout cela, et la date, Anno Domini, et tout, dit Mary. Vous aimez que les choses soient inscrites avec exactitude.
Et puis vraiment, il se conduit bien envers vous, père. Il a un profond respect pour vous, et il est impossible d'avoir meilleur caractère que Fred.
Aïe, aïe, vous voulez m'amener en me flattant à voir en lui un bon parti.
Non, certainement, père. Si je l'aime, ce n'est pas parce qu'il est un bon parti.
Pourquoi donc, alors ?
Oh, mon Dieu, parce que je l'ai toujours aimé. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à gronder personne. Et c'est un point à considérer dans un mari.
Votre résolution est donc tout à fait fixée, Mary ?
Aucun autre désir n'est venu à la traverse depuis les dernières circonstances, et les choses étant ce qu'elles sont ?
Caleb en sous-entendait beaucoup dans cette phrase ambiguë, parce que mieux vaut tard que jamais.
Il ne faut pas qu'une femme fasse violence à son cœur. Elle ne serait en ce cas ni bonne ni utile à son mari.
Mes sentiments n'ont pas changé, père, dit Mary avec calme. Je serai fidèle à Fred aussi longtemps qu'il me sera fidèle.
Je ne crois pas qu'aucun de nous deux pourrait se passer de l'autre, ou aimer n'importe qui davantage.
Quelque admiration que nous ayons pour ce n'importe qui.
Ce serait un trop grand changement pour nous, comme devoir bouleverser tous les lieux connus et donner à toute chose des noms nouveaux.
Il faut que nous attendions longtemps encore, mais Fred le sait bien.
Au lieu de répondre tout de suite, Caleb se tint immobile et enfonça le bout de sa canne dans l'allée herbeuse. Puis il reprit d'une voix où tremblait l'émotion.
« Eh bien, j'ai un petit brin de nouvelle à vous apporter. Que diriez-vous de Fred allant se fixer à Stone Court et exploitant le domaine de là-bas ?»«
Comment cela pourrait-il jamais être, père ?» dit Mary stupéfaite.
Il l'exploiterait pour sa tante Bulstrode. La pauvre femme est venue me prier et me supplier. Elle a à cœur de rendre service à ce garçon, et cela pourrait être une belle affaire pour lui. En économisant, il pourrait petit à petit devenir propriétaire du matériel et du bétail, et il ne manque pas d'aptitude pour le fermage.
Oh, combien Fred serait heureux! C'est trop beau pour y croire!
« Oh, mais faites attention !» dit Caleb, tournant la tête en façon d'avertissement.
« Il faudra que je le prenne sur mes épaules. Aussi bien serai-je responsable de tout, et aurai-je à voir à tout, et cela chagrinera un peu votre mère, bien qu'elle ne le dise pas. Fred, lui aussi, aura une grosse tâche. »«
C'est peut-être trop, père, » dit Mary, arrêtée soudain dans sa joie.
« Il n'y aurait pas de bonheur si ce devait être pour vous un surcroît de travail. »
« Non, non, le travail est ma joie, mon enfant, quand cela ne contrarie pas votre mère.
Et puis, si vous et Fred, vous vous mariez, et si la voix de Caleb trembla imperceptiblement, il sera sage et économe, et vous avez toutes les qualités de votre mère et les miennes aussi dans la mesure où elles conviennent à une femme, et vous le maintiendrez dans la bonne voie. Il va venir tout à l'heure, aussi voulais-je vous en instruire d'abord, parce que je pense que vous aimeriez à le lui dire vous-même. Après quoi, je pourrai en discuter avec lui tout à mon aise, et nous aborderons les questions d'affaires et tout ce qui s'ensuit.
« Oh, mon cher bon père !» s'écria Mary, lui passant les mains autour du cou, tandis qu'il baissait placidement la tête, disposé à se laisser caresser. « Je me demande s'il existe aucune autre fille au monde qui trouve son père le meilleur homme de la terre.
« Laissez donc, mon enfant !» Vous trouverez votre mari meilleur. »
Impossible, dit Mary, reprenant son ton habituel. Les maris sont une classe d'hommes inférieurs qui ont besoin qu'on les maintienne dans la bonne voie. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison avec Letty, qui avait couru pour les rejoindre, Mary vit Fred à la porte du verger et alla à sa rencontre.
Quels beaux habits vous portez, jeune homme extravagant, dit Mary, comme Fred s'arrêtait et levait son chapeau devant elle d'un air de cérémonie comique.
Est-ce là une manière d'apprendre l'économie?
Oh, voilà qui est trop fort, Mary, dit Fred. Veuillez seulement regarder de près ces parements d'habits. Ce n'est qu'à force de bons coups de brosse que j'ai un air honorable. J'ai 3 habits en réserve, dont l'un comme habit de noces.
Comme vous serez drôle, vous aurez l'air de sortir d'un vieux journal de mode.
Non, du tout, ils se garderont bien 2 ans.
2 ans ? Soyez raisonnable, Fred, dit Mary en se retournant pour faire quelques pas. Ne nourrissez pas d'espérances trop flatteuses.
Pourquoi pas ?
on vit mieux sur celles-là que sur celles qui n'ont rien de flatteur. Si nous ne pouvons pas nous marier dans 2 ans, ce sera déjà assez déplaisant de s'avouer la vérité quand elle sera là. Je connais l'histoire d'un jeune homme qui avait une fois caressé de flatteuses espérances et qui s'en est mal trouvé. Mary, si vous n'avez rien que de décourageant à me dire, je m'en vais. J'irai à la maison retrouver votre père. Je ne sais plus où j'en suis moi-même. Mon père est dévoré de soucis et notre maison ne se ressemble plus. Je ne pourrais supporter un surcroît de mauvaises nouvelles. Appelleriez-vous mauvaises nouvelles si on vous disait que vous irez vivre à Stone Court pour y diriger la ferme, que vous vous distinguerez par votre sage conduite et que vous ferez des économies chaque année jusqu'à ce que tout le bétail et le matériel soient à votre propriété et que vous-même soyez devenu le type du fermier accompli, du fermier distingué, comme dit M. Borthrop Trumbull, plutôt du genre vigoureux, j'en ai peur, et votre grec et votre latin bien oubliés, par exemple. Mais ce ne sont là que des absurdités, Mary, dit Fred, rougissant toutefois légèrement. C'est ce que mon père vient de me dire à l'instant comme une chose possible. Et il ne dit jamais d'absurdité, répliqua Mary, levant maintenant les yeux sur Fred, tandis qu'il lui serrait la main à lui faire mal, tout en se promenant tous les deux. Mais elle ne pensa pas à se plaindre. Oh, alors, vous verriez, Mary, quel brave garçon je pourrais être, et nous pourrions nous marier tout de suite. Pas si vite, monsieur. Comment savez-vous si je ne différerais pas plus volontiers notre mariage de quelques années? Cela vous laisserait le temps de vous mal conduire, et si alors quelque autre venait à me plaire mieux que vous, j'aurais une excuse pour vous planter là. Ne plaisantez pas, je vous en prie, Mary, dit Fred avec force. Dites-moi sérieusement que tout cela est vrai et que vous êtes heureuse qu'il en soit ainsi, heureuse parce que vous m'aimez mieux que nul autre. Tout cela est vrai, Fred, et je suis heureuse qu'il en soit ainsi, heureuse parce que je vous aime mieux que nul autre, répéta Mary d'un accent d'obéissance. Ils s'attardèrent sur le seuil de la porte, sous le porche abrité par le grand toit, et Fred, presque dans un murmure, lui dit « Quand nous nous sommes fiancés pour la première fois avec l'anneau de parasol, Mary, vous aviez coutume de... » L'esprit de la joie se mit à rire plus franchement dans les yeux de Mary, mais le fatal Ben arriva en courant à la porte avec Brownie jappant derrière lui, et l'enfant bondissant autour d'eux leur cria « Fred et Mary, vous n'allez donc jamais entrer, ou puis-je manger votre part de gâteau ?»